On a commencé une série d'études sur le retour du Seigneur, puis on a parlé de plusieurs signes qui devaient s'accomplir avant que le Seigneur revienne. La semaine passée, on a parlé d'un grand signe qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on bientôt nous allons le voir s'accomplir, le fait que le gouvernement mondial va s'élever, va prendre place, comme j'ai expliqué par des versets, que ça l'arrive pendant que les chrétiens sont là. Puis aujourd'hui, on va voir comme quelque chose qui est attaché avec ce qui va se passer là, à ce moment-là. C'est que le titre du message aujourd'hui, je vais vous parler sur le faux prophète, l'associé de la bête. La semaine passée, quand j'ai parlé, c'était la bête à sept têtes et dix cornes qui était à paraître, puis je vous ai expliqué selon la Bible et les différents commentaires, que la bête, ça serait un gouvernement mondial qui contrôlerait la planète, puis que les gens seraient à sa suite, puis tout le monde serait émerveillé et séduit pour croire en cette bête-là, parce que la puissance de Satan est avec lui. Puis pourquoi que ça va arriver, puis pourquoi que la puissance de Satan est avec lui? Parce qu'auparavant, la puissance d'égarement envoyée par Dieu va être envoyée par Dieu pour, dans le but que les gens soient séduits, puis acceptent cette séduction. Puis ça l'entraîne en même temps une apostasie dans l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui s'associent, puis sont mêlés, puis ça a plus qu'ils s'en vont, s'associent avec les choses qui ne sont pas de Dieu dans ce monde présentement. Ça, c'est l'apostasie qui doit arriver auparavant, puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché par la suite. Tout ça, c'est orchestré par la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est pas quelque chose que l'homme a provoqué, ni le diable. C'est Dieu qui décide que ça doit se passer comme cela. Puis on va voir plus tard dans des versets que c'était dans le plan de Dieu d'utiliser ce gouvernement mondial-là pour juger la grande prostituée qu'on va voir dans les prochaines études. Fait que là, on a vu la semaine passée la venue de ce gouvernement mondial-là. Aujourd'hui, on va parler d'un faux prophète qui est associé avec ce gouvernement-là, qui marche avec ce gouvernement-là. Puis j'ai parlé là-dedans, puis ça, c'est bien nécessaire de le comprendre, que dans peu de temps, c'est dans peu de temps que ça va s'accomplir, ces choses-là, qu'on va assister à l'apparition de ce personnage-là qui va régner sur toute la terre. Du moins du royaume qui est semblable à comme l'Empire romain de l'époque. Un royaume de 10 rois. Puis la Bible nous annonce qu'il ne travaillera pas seul. Il y a un associé religieux qui va faire son apparition pour soutenir puis élever ce nouveau gouvernement-là. C'est qu'il n'arrivera pas là tout seul comme gouvernement, parce que lui, la bête à sept têtes et du corne, c'est un royaume politique, militaire, puis en même temps un royaume au niveau des finances. Tandis que le faux prophète, ça va être quelque chose de religieux, de spirituel, qui va s'associer, mais qui n'a pas rapport avec la foi évangélique, ni rapport avec les religions, parce qu'il va s'opposer à toute forme de religion. C'est comme qu'on a vu la semaine passée. Mais il va avoir quand même un faux prophète auprès de lui qui représente quelque chose de spirituel, puis qui vont amener les gens à adorer la première bête. L'apôtre Jean nous a parlé d'une seconde bête qui monte de la terre. Dans l'Apocalypse au chapitre 13, à verset 11, ça nous dit « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Dans ce passage-là, si on suit juste à ce passage-là, c'est assez dur d'évaluer son rôle à cet antéchrist-là. Ben, pas à l'antéchrist, au faux prophète plutôt. C'est dur d'évaluer son rôle, mais c'est parce qu'il y a d'autres versets qui nous parlent de son rôle, qui fait que ça le déclare comme étant un faux prophète. Et un peu plus tard, vous allez voir, il y a des versets qui l'appellent un faux prophète. C'est quelqu'un qui prophétise, qui se pense envoyé de Dieu, puis connecté avec Dieu, mais avec le Dieu qui va faire l'affaire à cet antéchrist-là, qui vont s'unir ensemble, puis qui c'est un Dieu d'idolâtrie. On va voir toutes sortes de points qui nous amènent à voir quel genre de religion que ça va être sur certains points. Mais il y a deux cornes semblables à celles d'un agneau. C'est le premier indice que la parole de Dieu nous donne. Qui est le véritable agneau? Jésus. Jésus, c'est le véritable agneau de Dieu qui est venu dans le monde. Lui, il va ressembler à quelqu'un qui ressemble à un agneau. Quel est le symbole que vous voulez penser que la Bible nous révèle dans cela? C'est qu'il veut se faire passer pour un Messie, un Sauveur. Puis si on regarde le peuple dans le monde, les peuples dans le monde, ils attendent un Messie. Même les Juifs attendent encore un Messie. Les autres, ils attendent un Maitreya. Les autres, c'est déjà dans l'air qu'ils attendent quelqu'un de spirituellement. Ils s'attendent à quelqu'un de puissant, puis on va voir que la puissance de Satan va être avec ce personnage-là pour faire des miracles, pour amener le monde à croire en lui, puis pour amener le monde à adorer la bête, la première bête, puis son idole qu'ils vont fabriquer. On voit là-dedans que c'est spirituel, mais c'est pas du tout parce que c'est spirituel que c'est de Dieu, voyez-vous. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Dieu et sa puissance, ils en font des miracles. Mais il n'y a pas rien que Dieu qui en fait des miracles. Puis il faut faire attention quand on voit des miracles. C'est pas à cause qu'on voit des miracles que c'est nécessairement Dieu qui est en arrière de cela. La puissance d'égarement a déjà commencé. Il y a une séduction, puis un mélange dans l'esprit des gens, puis croire n'importe quoi comme doctrine, puis joindre, comme je vous disais auparavant, quand je vous ai parlé de l'apostasie, ils joignent au péché du monde, puis en plus, ils joignent avec les religions du monde, des idolâtries, puis toutes sortes de choses. Ils tassent de côté la Bible pour s'associer à ces faussetés. C'est ce qui va continuer à se produire avec ce faux prophète-là. Jésus a déjà enseigné sur les faux prophètes. Ils ont l'apparence de brebis. On voit ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 15 et 16, ça dit, « Gardez-vous des faux prophètes. » On a été mis en garde, pas juste une fois, plusieurs fois qu'on a été mis en garde, « Gardez-vous des faux prophètes. » Ils viennent en vêtements de brebis. C'est apparence de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? L'idée, c'est que ça se voit. C'est pas facile à voir que c'est un faux ou un vrai. Les vrais, tu le vois dans leurs fruits. Puis le faux, il y a de l'air vrai, mais si tu regardes attentivement les fruits, c'est pas les fruits de la parole de Dieu. Jésus en a parlé, puis là on parle au niveau des faux prophètes, mais ce faux prophète-là qui va venir, lui, il passe pour être l'agneau, un agneau, mais il parle comme un dragon. C'est quand les gens vont commencer à analyser ce qu'il dit, qu'on va se rendre compte que c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est important à réaliser, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on parle dans notre bouche? Si à l'église, alléluia, amen, puis on arrive, on retourne, on sort de l'église, puis on se met à dire des insultes, des injures, puis à dire toutes sortes d'obscénités dans notre bouche, ça prouve qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, puis ça prouve qu'on n'est peut-être pas des vrais brebis du Seigneur. Puis qui va s'en apercevoir? C'est les autres qui nous regardent. C'est important pour un chrétien qui ait un bon témoignage afin d'être reconnu comme étant une brebis du Seigneur. Parce qu'il y en a plein de religions qui se présentent comme étant des représentants du Seigneur. Mais c'est quand vous allez vivre la vie chrétienne, puis vous allez avoir dans votre bouche des paroles de sainteté, de justice, de droiture, d'amour, de patience, de douceur, des paroles de rassemblement, de bâtisseur avec Jésus, des paroles qui construisent, qui édifient. Là, vous allez faire partie, reconnu comme étant des brebis du Seigneur. Mais lui, il va être reconnu parce qu'il parle comme un dragon. C'est qui le dragon dans la Bible? C'est le diable. C'est Satan. Puis il va être là devant le monde, il va faire des miracles. Mais le monde qui ne connaisse pas la Bible ne le reconnaîtront pas. Ceux qui ne lisent pas leur Bible ne comprendront pas ce qui se passe. C'est important que la Bible soit dans notre esprit. Parce que c'est ça qui est notre guide. C'est ça qui nous permet d'évaluer les bons fruits des mauvais fruits. Amen. Son fruit sera d'appuyer le gouvernement mené par Satan. C'est pas des farces. Parce que la Bible nous dit déjà que le gouvernement mondial, c'est par la puissance de Satan qui va être là. Ça veut dire, si tu lis la Bible, tu sais que le gouvernement mondial, c'est par la puissance de Satan. Celui qui va s'associer avec qui va s'associer? Avec Satan. C'est un de ces premiers fruits qu'on voit, que ce gouvernement-là, pas ce gouvernement-là, ce faux prophète-là, il est appelé faux prophète plus tard, ce personnage-là qui prophétise et fait des miracles, il a de l'air brebis du Seigneur, il a de l'air d'un messie, il a de l'air d'une personne que le monde ils vont cliquer, là, ils vont être emportés à le suivre parce qu'il y a une puissance d'égarement. S'ils connaissent pas le Bible, ils vont l'adorer la même chose que tout le reste de la terre. Il dit, son premier fruit, c'est d'appuyer le gouvernement mené par Satan, puis il sera à ses côtés pour le contrôle mondial. Parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu que les humains cherchent à contrôler le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui se passe là, Dieu le fait pour un but. Dieu a ouvert les portes, mais c'est le diable qui fait cela. Dieu a ouvert les portes pour un but. Ben, c'est la même chose pour le pharaon. Parce qu'il n'a pas cru, Dieu s'en est servi pour glorifier son nom. Puis il s'en est servi pour amplifier son incrédulité, pour que la puissance de Dieu se manifeste encore plus. Mais c'est un peu la même affaire. Dieu permet que ce personnage-là, le gouvernement mondial et le faux prophète, qui s'unissent pour gérer la planète, mais Dieu va s'en servir pour des buts. Il va montrer sa gloire avec cela. Vous allez le voir à la fin de cette étude-là. Dans Apocalypse 13:12, ça nous dit que ce faux prophète-là va exercer toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire que la bête politique va être là, elle va gérer politique, finance, tout ça, mais l'autre, la bête religieuse, va avoir le contrôle sur les gens. Les gens vont être tellement séduits puis embarqués pour croire à ce personnage-là qu'ils vont écouter ce faux prophète-là au doigt et à l'œil. Ils vont se laisser mener, puis c'est lui qui exerce toute l'autorité de la première bête. Ils vont recevoir l'autorité de la bête, ce faux prophète-là, pour gérer des choses. Ça commence par le côté spirituel, puis ses miracles, ses séductions, ses belles paroles comme un dragon, mais ça va captiver les gens qui sont déjà sous l'emprise du diable. On voit au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voyez-vous, en plus d'exercer le contrôle sur la population, il va faire que toute la population adore la bête à 10 cornes. Il amène le monde entier à se mettre à genoux et à se prosterner devant cela. Ça va être encore plus loin dans les autres passages. Mais c'est quelque chose d'idolâtre. Que quand on se met à adorer un système, que ce soit un système monétaire ou appelez-le un système politique, un système religieux ou un système de vedettes ou de joueurs de hockey, puis quand tu te mets à adorer des personnages, là, c'est de l'idolâtrie devant Dieu. C'est une chose criminelle devant Dieu. C'est un des 10 commandements de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit idolâtre, puis c'est bien clair, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Puis il y a des gens qui vont le faire, puis ça dit que la terre en entier va être à genoux, puis ils vont adorer ce personnage-là, parce qu'il va l'imposer, cette adoration-là. La Bible appelle ce personnage un faux prophète. Puis il est lui aussi animé de démons, comme l'Antéchrist. Faut pas penser qu'ils font ça par la puissance de Dieu, comme je vous disais tantôt. C'est pas à cause qu'il y a des miracles que c'est Dieu qui fait cela. Alors regardez bien dans Apocalypse 16 et versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça c'est le diable, la bouche de la bête, qui est l'Antéchrist, et la bouche du faux prophète. Ça c'est ce personnage-là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles. Puis ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça définit vraiment quelle est la source qui anime l'Antéchrist et le faux prophète. C'est des esprits de démons qui sont capables de faire des miracles puissants. jusqu'à même faire descendre le feu du ciel sur la terre. Ils vont faire toutes sortes de miracles. Ils peuvent faire des guérisons, ils peuvent faire des délivrances, ils peuvent faire n'importe quoi, mais c'est des délivrances. C'est au haut du mensonge, là, parce que le diable, c'est des prodiges mensongers. C'est faire croire, mais en réalité, tu es autant pogné, puis plus pogné qu'avant. C'est juste pour l'apparence, pour séduire, pour qu'on passe pour chrétien. Parce que vouloir avoir un vêtement de brebis, là, ou l'apparence d'un agneau, c'est que tu peux peut-être vouloir être démontré que tu crois en Dieu et que tu es chrétien. Ça peut aller jusqu'à là, que ce soit un faux chrétien qui soit là. Je ne veux pas embarquer trop dans ce qui se passe dans le monde là, présentement, mais l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a des gens qui se disent chrétiens et qui appuient des personnages politiques qui sont dans le péché par-dessus la tête, puis ils disent, puis le monde passe par-dessus tout, puis continue à dire que ce gars-là, c'est un envoyé de Dieu. Il y a comme une séduction qui se passe dans leur esprit de croire que des gens politiques non chrétiens puissent être des bons gars, puis des gens menés par l'Esprit de Dieu. Attendez, faut bien penser là ce qui est écrit là. On va continuer avec ça. Ils vont faire des miracles dans le but, cette puissance-là, de rassembler les rois de la terre. Le but, là, c'est de rassembler les rois de la terre pour attendre la venue de Jésus, pour monter la bataille d'Armageddon, pour attendre Jésus pour y faire la guerre. Ces esprits-là, c'est ça qu'ils ont le but de faire. Mais Dieu, il sait que ça va être ça qu'ils veulent faire. Il l'a écrit d'avance. Puis c'est pour manifester encore sa puissance, parce que mec Jésus vienne, il va détruire l'antéchrist puis le faux prophète, puis il va détruire cette armée-là qui s'est rassemblée contre lui. C'est une unification, un effort en vain de l'humanité pour se rebeller contre l'autorité de Dieu. C'est les démons qui rassemblent, qui mettent dans la tête des gens qui peuvent se rassembler pour être contre Jésus lorsqu'il reviendra. C'est en vain. Jésus, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est perdu d'avance. Puis le diable, il sait lui-même que c'est perdu d'avance. Lui-même, il sait que sa fin arrive. Fait qu'il essaye de tout faire pour entraîner le plus de monde possible avec lui dans les temps de feu. Ce faux prophète fera aussi des miracles pour séduire les nations. C'est ce qu'on vient de voir dans ces passages-là, qu'il y avait trois esprits de démons dans chaque, puis qui vont vers les rois de la terre, puis ils font des prodiges, des miracles. Mais dans Apocalypse 13:13, qu'on est en train d'étudier, ça dit, elle opérait, ce faux prophète-là, opérait de grands prodiges. C'est pas des petits soulagements de mal de tête, là, on parle de grands prodiges, des choses que le monde, les deux bras vont tomber à terre, des ceux qui vont regarder ça. Ils vont dire, waouh, c'est donc bien puissant. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. On a déjà vu cette histoire-là dans l'Ancien Testament. Quand Élie, il a été voir le peuple d'Israël, puis il a dit, là, branchez-vous, c'est qui est Dieu? C'est-tu Baal ou c'est Dieu qui est Dieu? Mais là, il a dit au prophète de Baal de faire un sacrifice à Dieu. Ils ont préparé leurs autels avec le bœuf dessus. Puis là, ils ont imploré, une bonne partie de la journée, imploré leur faux Dieu à faire quelque chose, de mettre le feu au tas de branches pour pouvoir montrer qu'il est Dieu, puis il s'est rien passé. Puis quand Élie l'a fait, lui, il a mis le bœuf, il a dit « arroser tout ça, là ». C'était un temps de sécheresse, mais il a dit « arroser tout cela ». Ils ont creusé une tranchée, ils ont même rempli la tranchée qui avait le tout, tout autour, rempli d'eau, pour montrer que c'est bien arrosé. Puis il a juste fait une simple prière. « Père, montre-leur qui est Dieu, le feu a descendu du ciel, a consumé tout le bois, l'animal, tout a été brûlé par la puissance de Dieu. Dieu l'avait déjà fait, mais ce faux prophète-là va faire la même affaire. » Puis là, le monde va dire, « Wow, c'est vraiment Dieu qui est avec lui. » Puis ça ne sera pas Dieu qui est avec lui. Dieu va permettre qu'il fasse ces miracles-là dans le but de séduire. Autant que les chrétiens, dans cette période-là, ils essayent d'évangéliser pour amener les gens à la Bible, à la parole de Dieu, à lire la Bible, à se convertir à Jésus, à suivre la parole de Dieu. Eux autres vont dire, « On suit ce prophète-là. » C'est lui qui est puissant, puis c'est lui qui fait des miracles. Ils vont le suivre. Toute la terre va être séduite. C'est pas des farces. Fait qu'il y a juste certains personnages, on va le voir à la fin de cette étude-là, aujourd'hui, qui ne sera pas séduit. L'envoûtement qu'ils produiront amènera les gens à faire une statue de cet antéchrist-là, puis de lui rendre un culte, tellement que ça va être big comme séduction. Le monde va être d'accord de se mettre à genoux devant la statue qui représente stampé la statue de la première bête. Dans Apocalypse 13, 14, ça nous dit que c'est le faux prophète qui va emmener le monde à adorer, à faire la statue, puis à s'agenouiller devant cela. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodigues qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Quand ils sont tous les deux ensemble, la puissance de Satan se manifeste, puis il y a plein de signes qui se produisent. En disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voyez-vous, quand tu es séduit, tu ne vois plus c'est quoi qui est vrai. Si tu ne tiens pas proche de la Bible, puis lis la Bible, comprendre ce qui est écrit, puis que Dieu dit de ne pas avoir d'autre Dieu, puis de ne pas se prosterner devant aucune statue, aucune image, rien d'idole, que ce soit de sa terre, ou dans le ciel, ou dans l'eau, peu importe ce que tu fais comme statue, il n'y a rien qui doit remplacer le Dieu trois fois saint. Mais les gens vont s'en faire une représentant ce faux Dieu-là, ce faux personnage-là, qui est un antéchrist, puis en plus, le faux prophète va faire que tout le monde se mette à genoux devant ça, puis la terre entière va être séduite. Cette statue, en plus de cela, ils vont faire une statue pas normale, une statue spéciale, qui va être dotée de la faculté de la parole. C'est probablement mêlé avec l'intelligence artificielle. Tout le monde le sait aujourd'hui, parce qu'il en parle partout sur Internet, de l'intelligence artificielle qui est déjà créée. Puis ils ont fait un robot, une personne qui a de l'air d'une personne. Puis si vous voulez voir sur YouTube que ça a de l'air, cherchez Sophia sur Internet. Vous allez voir dans YouTube des vidéos qui démontrent ce statut-là. C'est pas une statue, mais un robot. C'est une fille, elle a l'apparence d'une femme. Elle a toutes les réactions de sourire, d'émotion, elle est capable d'être triste, joyeuse. Toutes les émotions humaines, puis elle est programmée pour répondre à toutes les questions, puis d'interagir comme si ça serait un humain. Elle est déjà créée, cette affaire-là. On est déjà rendu dans cette époque-là où est-ce que c'est possible de faire une statue qui parle. Elle est déjà faite. Sophia est déjà faite. Fait que ce faux prophète-là va faire une statue, mais une statue qui parle. Puis ils vont imposer au monde entier le culte obligatoire à cette statue parlante sous peine de mort. Apocalypse chapitre 13 à verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-tu assez fort? Ça revient à peu près à la même chose que ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, quand il a fait sa statue, puis là, il a ordonné à tous ses grands militaires, ses chefs de son royaume, sont tous rassemblés, puis il a dit, là, on va jouer de la musique, tout le monde va se mettre à genoux devant ma statue. Sinon, ils vont être jetés dans la fournaise ardente. C'est le même esprit qui était dans ce gars-là, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui était là dans ce temps-là, avant qu'il se convertisse à Dieu. C'était le même esprit de Babylone, l'esprit de prostitution, d'idolâtrie. Il avait ça dans la tête, puis tout le monde était obligé de le faire. Puis il y a juste trois personnes qui étaient là qui ne l'ont pas fait, parce qu'eux autres, ils étaient gérants dans le royaume de Babylone. Ils avaient été obligés d'y aller, eux aussi, mais ils ne sont pas mis à genoux devant la statue. Puis ils ont dit au roi, sache au roi que notre Dieu est capable de te délivrer de ta main. Là, il est enragé, il a fait chauffer la fournaise sept fois plus fort. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a ouvert la porte pour jeter trois gars dedans, le feu a brûlé le garde qui a ouvert la porte. Ils ont jeté trois gars dedans. Après ça, ils ont refermé la porte. Après ça, ils ont regardé par le hublot. Hey! Il dit, oui, on avait jeté trois gars là-dedans. Comment ça, ils sont rendus quatre? Parce que Dieu a envoyé un ange, puis ils ont été préservé d'être brûlé. Ils l'avaient confessé de leur bouche. Ils croyaient que Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas pareil devant ta statue. C'est ça qui est le courage de foi que Dieu s'attend de ses enfants. Mais que ça arrive, ce phénomène-là, puis que les chrétiens vont être obligés d'aller se mettre à genoux devant cela, les chrétiens vont marcher avec fermeté, puis accepteront pas cela. Ils n'iront pas se prosterner. Pourquoi? Parce qu'on la connaît, la parole de notre Dieu.
Amen.
Amen. On aime le Seigneur, puis on sait même que le Seigneur, il est capable de nous délivrer de sa main. Amen. Dans Apocalypse 13, 15, ça dit que ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Fait qu'il va y avoir une persécution mondiale contre tous ceux qui refusent de se prosterner. Comment ça va se produire, je ne le sais pas encore, si on ne le sait pas, mais on est préparé d'avance dans notre pensée à s'en rendre compte, puis de se préparer spirituellement, d'avoir la force de tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour assouvir leur soif de puissance et de contrôle, ils imposeront un contrôle mondial par un marquage sur la main droite ou sur leur front pour faire des transactions financières. Ils vont imposer un contrôle monétaire. Probablement, comme la Bible dit, qu'il va y avoir une ruine soudaine qui va arriver après qu'ils disent paix, paix et sûreté. Ruine, probablement une ruine financière, les pays qui tombent en faillite. Puis là, on n'a pas le choix, on est sous la tutelle du gouvernement mondial, parce que la Banque mondiale est associée au gouvernement mondial, puis on se doit tout à ce gouvernement-là, puis ils vont imposer une tutelle, puis un contrôle financier à travers la planète. Puis on a déjà le système aujourd'hui d'installer qui sera capable de gérer ça, les ordinateurs, le réseau Internet. Déjà, on a tout, veut pas, des puces présentement, dans nos cartes de crédit, dans nos cartes de guichet. Ils sont déjà là. C'est juste qu'ils ne sont pas encore dans notre main, imposés sur notre corps. Mais ils sont déjà existants, puis le contrôle électronique est déjà installé. Il manque pas grand-chose pour qu'on soit obligé d'adhérer à se faire marquer, parce qu'ils vont même enlever les cartes, parce que pour éviter les fraudes, la dernière étape, c'est de l'avoir direct dans la main droite ou dans le front. Si quelqu'un s'est coupé la main pour l'avoir, ils vont y mettre dans le front. Ben, c'est sûr qu'il y a un front. Si tu n'as plus de front, là, tu penses pas que tu puisses fonctionner ici. Dans Apocalypse 13, les versets 16 et 17, que ça nous parle de ce système, de ce contrôle-là. C'est la bête religieuse qui va imposer ce système-là. C'est la bête religieuse, le faux prophète, qui va imposer d'adorer la bête. Ils vont imposer de faire une statue. Ils vont imposer aussi de qu'on l'adore. Puis ils vont imposer aussi qu'on reçoive la marque financière. Parce que c'est elle, cette bête religieuse-là, qui va avoir de gérer, ça nous, on l'a vu au début, c'est elle qui exerçait toute l'autorité de la première bête. Fait qu'il va, je sais pas c'est qui encore, mais il va avoir un contrôle puissant, une mainmise sur l'ensemble de l'humanité. Ça dit dans le texte, et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On voit aussi dans ce passage-là qu'il va y avoir plusieurs systèmes, probablement tout dépendant dans quel pays que tu vis. Il y a les systèmes de contrôle par achat et vente, parce que ça nous parle d'une marque. On va le voir dans l'autre passage, mais ça parle aussi du nom de la bête, une autre marque qui peut être le nom de la bête. Ça veut dire que ceux qui ont adhéré déjà à la bête sont déjà marqués comme appartenant à la bête, ou écrit le nombre de son nom, parce que là, il va y avoir une question aussi de chiffres. Il y a trois sortes de marquages possibles qui vont avoir lieu lorsque ce gouvernement mondial-là va être installé. Fait que c'est pas encore le temps présentement de la marque de la bête. Le monde a peur de la puce, ils ont peur des masques, ils ont peur de tout, parce qu'ils ont peur de la marque de la bête. Mais on n'est pas rendu là parce que la bête n'a pas pris le contrôle encore. Fait que les systèmes qui se font aujourd'hui, c'est pas encore la marque de la bête. Mais même que la bête ait paru, puis ce système-là s'installe, puis l'adoration de l'Antéchrist, puis que là, les persécutions mondiales commencent, puis là, le marquage de tout le monde, comme si on serait du bétail. Mais là, c'est ça, là. Là, on va dire, on est rendu là. C'est là que les chrétiens vont avoir à dire non, à refuser la marque de la bête. C'est dans ce passage des Écritures qu'on voit le symbole qu'on parle souvent, 666, qui représente la marque de la bête. Dans Apocalypse 13, 18, ça dit, « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » C'est pas 666, c'est 666. C'est une addition d'un nombre des hommes, ça veut dire une manière de calculer, c'est soit en chiffre arabe que tu le calcules, ou tu le calcules en chiffre romain, ou tu le calcules en d'autres sortes de chiffres, à quelque part, que le total de l'addition de son nom soit 666. Vous pouvez commencer à essayer d'en trouver des formules. Moi, j'ai vu un site, un coup, qui en avait 100, une centaine de possibilités de calcul de nom de personne en chiffres romains ou de toutes les manières qu'ils essayaient de trouver, puis ça donnait 666. Fait que moi, je pense que Dieu veut pas qu'on le sache tout de suite c'est qui, mais même qu'on le voit, là, on va tout savoir, c'est lui. Mais c'est ça qu'on parle de la marque de la bête. Il y a des chansons même là-dessus, 666, The Number of the Beast. Ils font des chansons là-dessus, mais ils savent pas de quoi ce qu'ils parlent. C'est pas 666, c'est 666. C'est un chiffre qui est pour déterminer le nom de cette bête-là. La Bible parle aussi de sévères avertissements pour ceux qui adoreront la bête ou son image ou qui recevra la marque. Faut pas penser que Dieu est d'accord avec ce système-là. On l'a dit que c'est le système de Satan. Dieu l'a permis, mais c'est un système satanique, puis Dieu veut pas qu'on adhère à cela. Le jugement sera sans remède, puis ils seront privés de la grâce de Dieu, puis ils seront dans l'attente du déversement de la colère de Dieu dans leur vie présente et éternelle. Pour ceux qui recevront cette marque, il n'y aura pas de possibilité d'être pardonné. Apocalypse 14, les versets 9 à 11, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Il y a un avertissement qui vient du Seigneur. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Le personnage qui adore la bête, ou il dit deux choses, « adore la bête où son image, où tu reçois la marque. » Peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il va être tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, sans fin le tourment éternel à cause qu'ils ont reçu la marque de la bête. Voyez-vous, le châtiment n'est pas juste sur le coup d'être puni par une coupe qui va être déversée, que ça dit. C'est le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. On va voir dans l'autre verset, il parle de la coupe de la colère de Dieu qui déverse le feu de Dieu sur la terre, sur ceux qui ont reçu la marque. La colère de Dieu va être déjà présente sur la terre, mais elle va être au siècle des siècles. C'est une continuité éternelle. D'être sous la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas juste sur la terre. Le jugement éternel d'être séparé de la gloire de Dieu pour l'éternité après le jugement dernier, c'est la colère de Dieu aussi. Dieu n'est pas de bonne humeur de voir ces gens-là qui se sont rebellés face à son autorité. Puis ça dit, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça, c'est un avertissement sévère donné à tout le monde de la planète. Mais qui va s'en rendre compte? Seulement ceux qui lisent la Bible. Seulement ceux qui y croient même à la Bible. Parce que tu peux la lire, ils la lisent sans y croire. Les vrais avertis, les vraies personnes averties, c'est ceux qui la lisent puis qui comprennent ce qui est écrit là puis qui veulent le mettre en pratique. Parce que tu ne crées pas en Dieu puis tu ne crées pas que ça va arriver. Tu t'en fous. Il y en a qui en parlent, font des films, toutes sortes d'affaires. Puis le jugement, ils n'ont pas peur du jugement de Dieu, mais nous, on n'est pas supposé être de cette catégorie-là. On y croit en Dieu puis on croit en sa parole. Puis il n'y a pas rien de ce qui est écrit qui va passer qui s'en s'accomplit. Tout va s'accomplir comme qu'il l'a annoncé. Fait que à qui ça s'est adressé, ces textes-là? Premièrement, à nous. Nous pouvons voir un jugement par le feu sera sur ceux qui, lors du déversement de la première coupe, le feu de Dieu sera déversé sur ceux qui avaient reçu la marque de la bête puis qui adoraient son image. Parce qu'on voit encore sept coupes, les coupes de la colère de Dieu, dans Apocalypse 16. Ça nous dit, le premier alla, puis versa sa coupe sur la terre. Le premier versait sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Les autres qui ne l'avaient pas n'étaient pas frappés par cela. C'est seulement ceux qui avaient la marque qui ont été frappés d'un ulcère douloureux et malin. Fait que les souffrances ont commencé déjà sur la planète. Je sais pas si ça va revirer en cancer ou quelque chose, le système, mais les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir parce qu'ils l'ont reçu, puis le jugement de la colère de Dieu qui verse sa coupe, mais il va verser sa coupe, un ulcère malin douloureux va les frapper. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, que dans tout cela, oui, ça fait peur si on croit pas que Dieu est sur notre bord. Mais vu que Dieu est sur notre bord, on peut y aller avec assurance. On l'a chanté tantôt. Si Dieu est avec nous, là, Dieu est avec nous, puis Dieu, il va garder dans sa main sa protection. Des chrétiens sur la terre, ils seront pas tous morts parce qu'il va y avoir des gens qui vont être enlevés avec le Seigneur. On le voit dans différents passages, comme deux dans un champ, un va être pris, l'autre va être laissé. Deux qui mouent à la meule, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler normalement, puis ils sont pas marqués. Il y en a un qui part, l'autre va rester là. Un autre, deux dans un lit, l'un va partir, l'autre va rester là. Dieu sait qui lui appartient, puis on voit pas que les chrétiens vont être morts quand Jésus va revenir. Mais il va y avoir quand même une persécution dans le monde. On ne sait pas où ça va s'étendre, puis comment que ça va s'étendre, puis qui va être atteint. Mais nous, il faut s'attacher à Dieu. Puis si on n'a pas commencé à prier, il est temps de commencer à prier pour qu'on ait la force de passer à travers les épreuves que nous aurons à vivre. Vous allez voir ça dans les autres versets qui s'en viennent. Le Seigneur, il a tout en contrôle, puis l'heure du jugement de ces deux bêtes, il est déjà donné. Ça va arriver lors du retour de Jésus. Dans Apocalypse 19, le verset 20, quand Jésus va revenir, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête puis adoré son image. Ces deux-là, ils sont pris, puis ils le sont armés, bien entendu, puis ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est une exception que Dieu leur fait. Parce que les autres, ils seront pas jetés là tout de suite. C'est rien qu'après la résurrection des morts, puis le jugement du grand trône blanc. Après, les noms, ceux que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Mais eux autres, c'est pas à la fin qu'ils vont être jetés là. C'est tout de suite, ces deux-là vont être jetés dans l'étang de feu. Le faux prophète, puis l'antéchrist, qui ont séduit la planète à aller dans l'idolâtrie. C'est pour ça que l'antéchrist, que ça disait, qu'ils vont avoir des paroles de blasphème, des choses horribles qu'ils vont dire, puis ils vont souiller les saints que dans les cieux, puis toute la quête. C'est toutes des offenses directes à Dieu, puis Dieu, là, il n'a jusqu'ici. Il est en colère. Autant qu'il est plein d'amour puis de patience envers ses enfants, Mais envers ceux qui ne se repentent pas, il est en colère, puis la colère de Dieu est en cause sur eux. Puis même qu'il arrive les jours des jugements de Dieu puis de sa colère, ils ne pourront pas y échapper. On espère, puis on prie que ces gens-là se repentent, puis on fait nos efforts pour essayer de répandre l'Évangile, pour les amener au Seigneur avant que ça arrive. Nous devons nous préparer. Les chrétiens seront présents lors de leur venue puis de leur jugement par Dieu. Parce que dans ces versets-là, au verset 12, regardez bien à qui ça s'adresse, là. On est en train de parler si quelqu'un adore la bête et son image. Mais au verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça s'adresse à des gens qui ont la foi en Jésus. C'est des gens, c'est qui ça, c'est qui ont la foi en Jésus puis qui gardent les commandements de Dieu? C'est nous. On aime le Seigneur, on veut garder sa parole, puis on y croit, ses commandements. On croit que ça fait partie, ils ont tout enseigné, puis toute sa parole, c'est des commandements. Jésus n'a pas parlé juste pour le plaisir de parler, il a parlé pour nous dire ce que lui veut, puis il dit, ça doit marcher de même dans mon royaume. Fait que si on adhère à ce royaume-là, parce qu'on croit, on applique cela. Fait que ces versets-là, ça s'adresse à nous. On va être là pendant qu'on va voir l'Antéchrist arriver, puis on va voir son imposition, puis on va voir aussi d'autres versets intéressants dans la même idée. En tant que peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous ne serons pas étonnés de voir apparaître ces deux bêtes, parce que notre nom y est inscrit dans le livre de vie. Regardez bien ça dans Apocalypse 17:8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Les gens dans le monde vont s'étonner en voyant la bête, parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas inscrits d'avance, appelés par Dieu, puis marchant avec le Seigneur. Mais ceux qui le sont, que le nom a été inscrit, eux autres ne seront pas étonnés. Parce qu'on l'attend, on le sait que ça va arriver, on est averti que ça va arriver. Puis mec qui arrive, on va le savoir que c'est lui. Puis on va dire non, on n'adhérera pas à se mettre à genoux devant ça puis recevoir l'imposition de ses affaires. C'est pas parce qu'on est des gens rebelles, parce qu'en principe, on est toujours soumis aux autorités, sauf qu'on n'ira pas au-delà de ce que Dieu nous donne la permission de faire. Dieu ne nous demande pas d'être idolâtre, il nous défend d'être idolâtre. Fait qu'il n'y a pas question qu'on soit idolâtre envers ce statut-là. La même chose que quand Nebuchadnezzar a voulu l'imposer, on va parler de la même façon. Dieu est capable de nous délivrer de ta main, puis sache s'il ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas pareil devant ta statue, puis on ne recevra pas ta marque. C'est ce même qu'un chrétien va répondre, parce que ça fait partie du plan de Dieu que ça se passe de même pour un tri. C'est l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 3, il nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai au jour de tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça s'en vient. C'est une épreuve. Puis les gens vont adhérer là. Mais ceux que le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils vont dire non. On ne sera pas étonné de voir ça arriver. On l'attend, puis on va refuser ces choses-là. Puis un autre passage qui nous parle un peu dans la même idée. Nous, les inscrits dans le livre, on n'adorera pas cette idole-là. Dans Apocalypse 13:8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Fait que nous, quand notre nom est inscrit, on ne l'adorera pas. C'est pour ça qu'il va y avoir une persécution mondiale, puis que cet antéchrist-là, il va se soulever contre toute forme de Dieu, parce qu'il va s'élever comme étant Dieu, lui-même, sur la terre, puis il va s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu et on adore. Fait qu'il va être contre toute forme de religion sur la planète, parce que les religions, il y en a que oui, peut-être, qui vont se faire puncher quand même. Mais en général, les gens vont s'opposer, ceux qui ont des convictions. Puis ils vont s'opposer pour renverser toute forme de religion. Fait que ce qu'on vit là présentement, on a vu un quatre mois, pas de réunion. ça l'ébranle, ça l'affecte, ça dérange notre routine spirituelle, mais c'est une formation. Parce que ça se peut que ça se reproduise de différemment, mais pour d'autres raisons peut-être, mais qu'on ait d'autres temps où on n'aura pas de réunion pour se réunir, mais il va falloir quand même chercher à se fortifier en Seigneur. Parce que je l'ai dit la semaine passée, le verset qui disait, son royaume, son règne va durer de 3 ans et demi. C'est écrit. Fait que si pendant ces 3 ans et demi-là, on finit par être 2 ans sans se réunir, ça va être beaucoup plus que 4 mois. Je donne des exemples, là. Mais il faut déjà avoir dans notre pensée, trouver des solutions pour que les chrétiens se réunissent, comme dans des pays communistes qui n'ont pas le droit, ils se réunissent en dessous, puis ils essayent de se bénir, puis de se fortifier dans le Seigneur, puis de se nourrir spirituellement pour rester bouillant. Parce que des chrétiens, c'est ce qu'ils font présentement, là, dans des pays où ils n'ont pas le droit de se réunir. Fait que ceux que leur nom est inscrit dans le livre de vie, ils adoreront pas, puis en se prosternant, puis ils se feront pas puncher. Puis dans ces mêmes versets-là, encore, c'est encore dans le même texte, verset 13, dans ces mêmes versets-là, il y a une promesse pour ceux qui persévéreront dans la foi en Jésus jusqu'à la mort. Dans Apocalypse 14, 13, puis j'ai entendu du ciel, je finis avec ce dernier verset-là, une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est pas pour rien que c'est écrit cette phrase-là, dans le paragraphe, du jugement établi que si quelqu'un adore la bête et son image, puis reçoit une marque, mais dans le même passage, il dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est qui ça? C'est nous. On était tous des morts avant de venir à Jésus. Morts spirituellement séparés d'avec Dieu. Mais on est devenu dans le Seigneur. Puis là, on va mourir dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on va persévérer jusqu'à la fin dans la foi en Jésus sans se laisser intimidé ou peu importe, je sais pas quel mot dire, qui ferait qu'on reculerait en arrière et qu'on abandonnerait le Seigneur. Pas du tout. On est sauvé, on est dans le Seigneur, puis on va marcher jusqu'à la fin. Puis il n'est pas question qu'on adhère à ce système-là. Prêt à aller jusqu'à où? Jusqu'à la mort pour Jésus. Puis heureux ceux qui vont mourir dans le Seigneur, parce que c'est là que ça nous dit qu'il... Ils se reposeront de leurs travaux. Le repos de Dieu, le sabbat de Dieu, le 7e jour dans lequel on est supposé la liste se reposer, c'est après. Là, on est encore dans le temps de travailler pour le Seigneur. Il dit, là, un jour, on va se reposer de nos travaux. C'est dans le repos. Le sabbat des chrétiens, c'est rendu l'autre bord. Fait que, si tu meurs dans le Seigneur, tu vas rentrer dans le repos de Dieu, puis tes œuvres vont te suivre. Les récompenses vont être là. On va en voir plein de passages. On va en voir d'autres passages qui nous parlent de ceux qui vont ressusciter pour les noces de l'agneau puis régner avec le Christ. C'est ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, qui ont résisté. C'est eux autres qui vont être dans les noces de l'agneau puis qui vont régner avec le Seigneur pour les 1000 ans. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes ces exhortations-là, pour toutes ces révélations, Seigneur. Je te demande de les graver dans notre cœur, puis de faire de nous des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour Jésus. On n'est pas là pour flatter les gens, puis de leur dire des belles choses flatteuses. On est là pour dire la vérité, puis ça, c'est ta parole. Puis on croit, Seigneur, que tu nous demandes de marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Seigneur, pour Jésus, on est là, puis je te demande de nous saisir par le Saint-Esprit, de nous remplir, de nous revêtir, de nous équiper, de nous rendre forts, puis de nous garder bouillants pour toi, pour qu'on soit debout lorsque tu apparaîtras. Seigneur, on s'en remet à toi, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.